Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Il est vivant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons proclamer toujours la bonté du Seigneur, car ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, chaque soir, à chaque instant. C'est un privilège pour moi de remercier mes bien-aimés frères de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et je vois plusieurs amis qui sont devant moi ici ce soir, demain, dans le temps de partager. Alors, c'est un privilège aussi à cette introduction de ce soir, de pouvoir situer le contexte dans lequel nous allons évoluer demain toute la journée, et puis dimanche matin. Je voudrais ce soir aborder les certitudes qui nous donnent le repos. La vie chrétienne n'est pas une religion proprement dite, car ayant mon fondement de musulman, je sais de quoi je parle. En matière de religion, j'ai vécu dans la religion, je sais ce que le bien qu'il y a dans la religion. Mais l'incapacité aussi de la religion de transformer le cœur d'un homme. Quelle que soit la beauté de cette religion. J'y ai grandi, j'ai fait tous mes efforts. Mon père était un waliyou, c'était un saint de l'islam. Un homme qui, pour se mettre en colère, c'était difficile, parce qu'il était un homme qui ne jamais se mettait en colère, un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Un homme qui avait faim et soif de la réalité de Dieu. Parce qu'il se disait, ce n'est pas possible que la vie que nous menions, ça soit ça, c'est que Dieu est Dieu a donné à l'homme de vivre sur la terre. Et c'est dans cette ambiance que nous avons grandi, mes frères et moi, et nous avons fait l'école coranique dans la deuxième ville du Burkina Faso. Nous avons appris à l'initiation à la lecture du Coran. Et dans cette ambiance où nous faisons le carême, c'est-à-dire le jeûne musulman, par tous les jours, parce que nous étions enfants, mais on nous imposait quand même de le faire, nous cherchons quelque chose d'authentique et profond. Et dans cette recherche, nous cachions même aller à l'église catholique, bien que enfants de musulmans, nous cachions pour aller à l'église catholique, pour chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous manque. Dans cette recherche, c'est ainsi que j'ai appris les deux merveilleux cantiques, sans avoir été chrétien, ni baptisé, ni rien. Il est né, le divin enfant, jour au bois et soleil lumière. J'étais assis là, à 6 ans, que j'ai appris cela. À la messe de minuit, et à la messe de Noël et de Pâques. Les anges dans nos campagnes. C'est là, dans mon village. Petit musulman assis parmi des chrétiens, en train d'écouter les merveilles cantiques. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé le sport et la musique, tout cela s'est évaporé. Parce que la vie au lycée et à l'université ont fait disparaître cette vie à laquelle j'aspirais. C'est ainsi qu'en 1973, à Toulouse, la ville rose, le Seigneur m'a, au moins, j'ai passé une licence en économétrie, les mathématiques, les statistiques appliquées à l'économie, que Dieu est venu me saisir une fois pour toutes, parce que, une fois encore, j'avais défié Dieu, mais son amour m'a rattrapé. Et j'ai commencé, quand je me suis converti, donné à Christ. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il s'est révélé à moi de façon puissante. Il est venu en personne dans ma chambre d'étudiant, 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. À 6h45 du matin, il est venu en personne. Jésus, 3 semaines, le 7 février, jusqu'au 15 février, du 15 février jusqu'au 21 février, 3 semaines pleines où le Seigneur visitait régulièrement ma chambre, d'une manière ou d'une autre, par plusieurs manifestations. Et malgré toutes ces choses, ces bonnes choses que j'ai vécues, des visions que j'ai vues, j'ai vu l'enlèvement, Dieu m'a montré l'enlèvement de l'Église. Mais malgré toutes ces bonnes choses et le baptême du Saint-Esprit tout puissant dans ma chambre d'étudiant, personne ne m'avait parlé du baptême du Saint-Esprit. J'étais nouveau converti et je priais un soir dans ma chambre d'étudiant. J'étais à genoux devant mon lit dans ma chambre. Et là, je me suis assoupi, j'ai mis ma tête sur mon matelas, je dormais, sur le lit, je dormais. J'ai été réveillé par une puissance électrique qui traversait tout mon être. Pendant une semaine, cette puissance de Dieu m'a visité profondément. Et quand je suis allé à l'église le dimanche matin, dès que le pasteur m'a dit, « Maman, tu es rempli du Saint-Esprit. » Il dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a dit, « Il y a une puissance qui se dégage de toi. » Ah oui, j'ai vécu le lundi nuit. Jusqu'au dimanche, j'ai vécu quelque chose que je ne comprenais pas. Je suis nouveau converti. Il me dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu as parlé une langue bizarre. Non, il dit, oui, j'ai parlé une langue bizarre. J'ai cru que c'était un peu... Mais alors, pourquoi je vous dis ces choses-là? Donc, les grandes visions, et Dieu a commencé à me manifester à travers ma vie des dons spirituels. Les dons spirituels, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Quand j'allais au campus ou bien au restaurant universitaire, Dieu me révélait la vie des étudiants. Les gens avaient peur un peu parce que... Alors, vous voyez, je vous dis ces choses-là pour vous dire que... Et après cela, j'ai commencé à témoigner à Toulouse, à Rangueil, si tu connais Toulouse, l'Université des sciences, et dans plusieurs endroits, nous étions sur les marchés forains le samedi matin. On partait avec le pasteur témoigner et on voyait les gens dans les marchés forains là, se mettre à genoux, se convertir, d'autres nous insultaient. Mais ce qui était important, je vais vous dire ce soir, c'est que j'étais passionné pour Christ et passionné pour les âmes. J'ai grandi dans cette ambiance, donc jusqu'à ce que je rentre chez moi pour travailler comme directeur général d'entreprise. Et Dieu a continué à passer, à me faire grâce, à témoigner, à faire des croisades d'évangélisation. Mais il y a un moment donné, cette soif de vivre une vie chrétienne victorieuse, comme on l'appelle chez nous la VCB, la vie chrétienne victorieuse. Une vie qui apporte un repos, non pas de frustration permanente, non pas des efforts qui aboutissent à une dépression. Seigneur Jésus, est-ce pour cela que tu es venu sur la terre, pour le genre de vie que les chrétiens mènent? C'est pour cela que tu es mort à la croix du calvaire, pour une vie si passable, une vie si médiocre que nous menons, pour ça que tu es mort, pour ça que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, le grand Saint-Esprit, qui vient vivre en nous et nous continuer à vivre de cette manière, de façon frustrante, de façon, avec des pressions, des dépressions. Ma recherche a commencé à ce moment-là. Car une insatisfaction et une soif ont saisi mes entrailles spirituelles. Seigneur, est-ce la vie chrétienne? C'est ça seulement la vie chrétienne? Une hypocrisie? Un voile que nous mettons sur nos visages? Et que quand nous sommes là, à l'église, tout va bien. Dès que nous quittons l'église, nous devenons textuellement comme nous étions avant. Malgré tous ces miracles que je voyais, je prêchais, je voyais des gens guéris, je voyais des gens guéris, des malades guéris. Mais moi-même, j'étais malade intérieurement. Malade. Malade d'une vie chrétienne frustrante, sans victoire. Et je compose, j'écris, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps et cette mort? Qui va me délivrer? Qui est mon libérateur? Jésus! Est-ce que tu es mort simplement pour nous réconcilier avec toi? N'y a-t-il pas quelque chose? Mais pourtant, quand j'ai vu Pierre, et ensuite comment il a grandi, Paul, comment cet homme violent, ce pécheur chronique, tu l'as transformé totalement. Quand je vois tous ces hommes de la Bible que tu as transformés, et pourquoi aujourd'hui, dans ce 20e siècle, pourquoi sommes-nous là dans la défaite, dans la dépression et oppressés? C'est ainsi que le Seigneur a commencé à me conduire pas à pas, pas à pas, pas à pas. J'étais frustré, frustré. Une fois même, j'étais avec Antoine à Kinshasa, il se rappelle bien. Tu es allé voir dans sa chambre, tu te rappelles? Voilà, il a prié avec moi. C'était pas Kinshasa. Libreville, du moins, Libreville. Oui. Donc, ouais, j'étais à la recherche. Donc, quelque chose en moi disait, mais ce n'est pas possible que la vie chrétienne se résume à ça. Aller à l'église, participer aux activités, prier pour les gens et revenir. Bon, dans la famille, ça ne va pas. Moi-même, ça ne va pas. Donc, il y a, disons, 15 années en arrière que le Seigneur a commencé à me montrer à travers la parole de Dieu ce qu'il y a. Première chose qu'il m'a dite lorsque j'ai ouvert la Bible dans Osée, le prophète Osée appelle Daniel. Il a commencé à me parler dans Osée 4 que nous connaissons si bien, que nous enseignons, que nous partageons entre nous, deux passages. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, comme c'est enregistré, si vous n'avez pas de Bible ici, ce n'est pas un problème. Si vous prenez les CD, vous pourrez relire cela à la maison. Dans Osée 4, verset 6, il dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, quand on lit cela, nous avons là l'air de croire qu'il parle d'une connaissance intellectuelle. Dans le grec, il y a plusieurs choses. Il y a la connaissance, la gnosis, ensuite la gynosko, connaissance qu'on appelle gynosko, puis la connaissance épignosis, après la connaissance épigynosko, qui sont des connaissances qui ne sont pas acquises par l'apprentissage ou l'instruction de l'intellect, mais qui viennent de la révélation profonde à l'intérieur. La Bible dit ici, mon peuple périt par manque de révélation. Pas de connaissance intellectuelle, pas de savoir, de révélation. Mon peuple me regarde, mais n'arrive pas à discerner qui suis-je en réalité. Mon peuple parle de moi, parle de ma bonté, parle de mon amour, mais sans voir profondément de quoi il s'agit. Je dis, mon peuple est détruit. Nous nous avons dit, nous sommes détruits à cause de Satan. Dieu dit non, Satan ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Ah, dit non. Ça, il dit non. Sinon, mon fils aura fait du travail inutile. Mon fils Jésus aura fait du travail inutile. Si Satan, malgré tout ce qu'il a fait, si Satan peut détruire mon peuple, en ce moment-là, Jésus est venu en vain. Alors, qui va vous délivrer? Si Jésus n'a pas pu, qui? Quel est cet homme sur la terre? Tous pécheurs. Mais ils sont devenus des enfants de Dieu. Je dis maintenant, s'ils n'ont pas la révélation de qui ils sont, ils vont continuer à être des pauvres petits pécheurs, comme on le dit chez nous, des PPP. Dieu n'a pas d'enfants pauvres petits pécheurs. Dieu n'a pas de PPP. Alors, voilà mon peuple. Mon peuple périt et détruit. Mon peuple échoue. Les mots synonymes de péril ici, ce n'est pas est mort, non. Détruit, failli, échoue. Donc, mon peuple échoue dans sa marche chrétienne. Mon peuple n'aboutit pas. Mon peuple n'a pas de victoire parce qu'il lui manque la révélation. Et c'est pourquoi dans Osée chapitre 6 maintenant, Osée 6 un peu plus loin, et le prophète nous dit, verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et si nous l'avons connu, il dit quelque chose, le résultat, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors, quelque chose, Dieu nous dit que lorsque nous avons la révélation, de même que chaque matin, il y a l'aurore, l'aurore est là. Il dit, la venue, la manifestation du Seigneur est aussi certaine que le lever du soleil. Je n'ai pas besoin de prier pour que le soleil se lève. Ma prière n'a aucun effet sur le lever du soleil. ni sur son coucher. Dieu me dit, lorsque la révélation est là, de façon certaine, que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, de façon certaine, si tu as la révélation, le Seigneur dans ta vie, il te donne des certitudes dans lesquelles, comme le soleil se lève. Alors, quand cette révélation a commencé à venir tout doucement, j'ai commencé à savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit, dis à mon peuple, il y a des certitudes qu'ils doivent avoir. S'ils n'ont pas ces certitudes-là, ils vont beaucoup faire beaucoup de choses, mais ils vont être comme des montagnes russes, haut et bas. Certains moments, ils sont sur le sommet, d'autres moments, ils sont dans la vallée. Dans la vallée de la dépression, la semaine prochaine, ils sont sur le sommet de la gloire, le surlendemain, ils sont dans la vallée de la dépression. Il dit, ma vie, la vie que j'ai donnée est une vie linéaire. Ils n'ont pas une vie comme cela, en dents de choses. J'ai commencé à chercher qu'est-ce que le Seigneur peut me dire. Il dit, j'ai dit que je vous enseignerai par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en tourisme en toi. Il n'y a rien de beau en toi pour qu'il vienne en tourisme. Il est venu en toi parce qu'il doit jouer un rôle important. Mais tu as lu les sept verbes du Saint-Esprit? Il dit oui. Il relit encore Jean 14, 26. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Deuxièmement, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Troisièmement, Jean 15, 26, il témoignera de moi. Ensuite, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Ensuite, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous prendra ce qui est en moi et vous le révélera. Et il vous montrera les choses à venir. Il dit, mais alors, est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Est-ce que ces verbes que j'ai donnés ici, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que tu le laisses faire? Je dis non. Je dis alors, comment veux-tu avoir la vie, le repos? Tu es en train de fabriquer une vie que moi, je ne t'ai jamais donnée. Je ne vous ai pas demandé de fabriquer une vie chrétienne. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui produit la vie en vous, il s'appelle le Saint-Esprit. Il produit ma vie. C'est lui qui est le producteur de la vie. C'est lui qui manifeste cette vie en vous. Alors, j'ai commencé à chercher et lisons dans 1 Jean, si vous avez votre Bible, 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, au verset 19, quelques certitudes que nous voulons voir ce soir. Et demain, comme on a 3 sessions, je crois que le Seigneur nous aidera à aller de l'avant. Ici, dans 1 Jean 5, verset 19, vous voyez bien ce que la Bible dit ici, selon, bon, j'ai pris la version 8 secondes pour, elle est un peu populaire, sinon il y a des versions plus précises encore, qui, comme la Bible de Jérusalem et tout, que j'aime beaucoup. C'est une et puis la Bible anglaise. Mais ici, il est dit, verset 19, nous savons, je lis tout le verset, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Première certitude que je voudrais voir avec vous ce soir. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Sans cette certitude-là, la vie chrétienne ne doit pas avancer. La première certitude que nous sommes de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Première certitude. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Non. S'il vous plaît. Un chrétien n'est pas un pécheur. Non, s'il vous plaît. Nous savons. Jean dit, nous le savons. Nous avons eu la révélation. La révélation du Saint-Esprit nous a donné la certitude que maintenant nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Ça vous donne le repos. Ça vous fait entrer dans le repos pour toujours. Vous n'êtes plus inquiété. Vous n'avez plus besoin d'essayer de convaincre Dieu. Vous n'avez pas essayé de démontrer que vous êtes enfant de Dieu. Non, vous n'avez pas besoin. Sur le plan naturel, un enfant qui est né, vous ne pouvez rien faire. Il est né de vous. Si vous êtes M. Dupont, l'enfant dirait, je suis né de M. Dupont. Il n'a même pas démontré, il n'a pas de démonstration à faire. Il est né de M. Dupont, un point, c'est tout. Il est de la race des Dupont. Il est de la famille des Dupont.
Il y a le sang des dupons qui coule dans ses veines. La Bible lui dit, nous sommes de Dieu, nous sommes de la famille. Nous sommes nés de lui. Ça, c'est pas des doctrines, ça, c'est des faits. C'est des faits. On ne vous parle pas de doctrine, non, des faits. Nous sommes les dieux.
Je vais revenir sur ça tout à l'heure, plus tard. Deuxième élément, 2 Pierre 1,12. 2 Pierre 1,12. Après, tout juste avant Jean. Devant 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Deuxième certitude, il nous dit ici, Pierre, cette fois c'est Pierre qui parle, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Vous voyez bien? Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Il veut rappeler. Pourquoi? Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente. Ah. Donc il y a une vérité qui n'est pas présente. Oui, s'il vous plaît. La Bible est dans deux livres. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous marchez selon la vérité passée, la vérité présente ne sera d'aucune utilité. La vérité passée, on s'y réfère pour entrer dans la vérité présente. On se réfère à la vie de David, on enseigne la vie de David. Mais si on n'aboutit pas par Jésus-Christ, la vie de David ne veut pas. Parce que Christ n'était pas en David. Il n'a jamais connu Christ. Abraham n'a jamais connu Christ. Élie n'a jamais connu Christ. N'a jamais habité en eux. Leur vie n'était pas Christ. Ils ont cherché à le voir. Ils l'ont regardé de loin. Ils l'ont contemplé. Ils ne l'ont jamais connu. Il dit la vérité présente. Et ils étaient des gens de l'ombre. Ils étaient des gens de l'ombre. Si vous lisez dans Hébreu, il dit ils vivaient dans l'ombre. Il dit, c'était l'ombre et la réalité, c'est Christ. C'est pourquoi Pierre, quand il a découvert cela, il dit, mais la vérité présente, je vais vous la donner. Et le troisième passage que je vais lire, toujours dans 2 Pierre, chapitre 1, toujours, verset 2. Pierre nous dit quelque chose ici. Il dit, la révélation qu'il nous donne, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, c'est pourquoi, en français, nous voyons tout le même mot tout le temps, connaissance. Mais si vous lisez dans, dans Jean 8, verset 32, 31 et 32, là-bas, il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et ici, il est dit, on parle de connaissance encore. Mais en français, c'est tout le temps le mot connaissance. Mais dans le grec, que Christ utilisait, que les disciples utilisaient, ce n'est pas le même mot. On dit première connaissance, quand j'ai accès à la vérité de Dieu, qui est Christ lui-même, il a dit je suis le chemin, la vérité, ça c'est le premier élément. Je suis pécheur, je ne connais pas Dieu. Et quelqu'un m'annonce la parole de vérité, Christ, le chemin, la vérité, la vie. Alors, la Bible me dit ici par la bouche de Jésus, que lorsque je connais ce Jésus-là, comme le chemin, la vérité, la vie, quelque chose se passe en moi. Je suis, Colossiens 1 nous dit, je suis transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière en qui j'ai eu donc la rédemption. Je suis transféré. Ça c'est un. Pierre ne parle pas de cette connaissance ici. Pierre ne parle pas de ça. Jésus parle à des juifs qui ont cru en lui. Et il dit à ces juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la connaissance expérimentale. La science expérimentale de la vérité vous donnera l'affranchissement du pouvoir du péché, de la mort et de l'enfer. Expérimentez la vérité, pas entendre la vérité. Pas entendre la vérité philosophique ou psychique. Non, la vérité Christ vous affranchit du pouvoir du péché. Vous libère totalement, frère. Vous commencez à marcher sans complexe. Pas vous rentrer dans la justification de Dieu.
vous rentrez dans la réalité de la victoire de Christ. C'est ce que j'ai expérimenté après 15 ans de souffrance, de pleurs, d'agonie. Allant dans le monde, j'ai fait le monde entier, des États-Unis, de l'Est à l'Ouest des États-Unis, du Nord au Sud, en passant par le centre des États-Unis, j'ai fouillé tous les grands hommes de Dieu. Ils ont prié pour moi, rien n'a changé. Je suis allé en Angleterre en 1981, rencontrer Démon Chakaria. Il a prié pour moi à Londres, Démon Chakaria. Il a prié pour moi. L'onction m'a servi, j'ai tourné, je suis tombé. Quand je suis revenu, rien n'a changé. Dieu m'a dit, mon fils, écoute-moi très bien. Ce n'est pas la prière des hommes de Dieu qui change les gens. Tout le temps, vous avez les yeux sur les hommes. Il dit, c'est moi, la vie. Je suis la vie, moi. Les hommes, aucun homme ne peut te communiquer la vie. C'est moi, la vie. Je suis allé en Amérique. Béni, il a prié pour moi. J'ai volé comme une plume. Maurice Herlot, il a prié pour moi à Anaheim, San Diego. Je suis allé chez Oral Robert, tout ça, Oklahoma. C'est pourquoi j'ai visité le monde à l'époque, pendant les 15 dernières années, les années 20 dernières années, j'ai fouillé pour chercher quelle est la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse. Et c'est en ce moment qu'un jour, mon épouse m'a dit, tu es en train de chercher Dieu. Tu as eu des expériences avec Dieu. Jésus est venu dans ta chambre, il dit oui. Tu pries pour les malades. Nous avons vu ici des aveugles voir, des paralytiques marcher. Tu cherches Dieu où? Mais je, écoute-moi, tu ne comprends pas. Il dit, les femmes ne comprennent pas parfois les choses. Il dit, mais calme-toi parce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est bon, les femmes vous êtes bien, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Moi, je cherche power. Je cherche power, puissance. Il dit, mais tu as la puissance. Tu pries pour les gens. On le voit à l'église, on le voit partout. Tu fais des croisades. La puissance de Dieu est là. Et un jour, effectivement, j'étais fatigué, découragé. Après toutes ces tournées, perdre beaucoup d'argent. Je suis arrivé chez moi et un matin, j'étais épuisé vers 4h, 5h du matin. J'ai pris ma Bible et je suis allé dans mon salon. Dans un angle, il y avait toute une bibliothèque. Là, dans mon salon. Et là, j'ai pris ma Bible, je me suis mis à genoux dans ce petit coin de mon salon. Là, je me suis mis à genoux et j'ai crié. J'ai fait, quand je suis sorti de ma chambre, je suis sorti sur la pointe des pieds. Afin que ma femme ne se réveille pas. Je suis allé tout seul, déjà tout le monde dormait. Je suis allé tout seul dans le salon. Ça, c'est l'orgueil masculin. Je veux pas que quelqu'un le voie. Je suis allé, je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, ma femme m'a dit que tu es ici. J'ai fait le monde entier. Je n'ai pas reçu. Mais ma femme dit que tu es ici au Burkina. Vous imaginez comment? Seigneur, si tu es réel, viens. Et là, dans ce petit coin, comme Élie est assis là, dans ce petit coin-là, là, la présence de Dieu est descendue. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai gaspillé mon argent en voyageant. Viens ici. Mais Dieu est ici, ici, là, là. Et moi, je suis allé en Amérique, je suis allé en Angleterre chercher Dieu, alors que Dieu se trouve dans le petit coin ici. Mais quand cette présence de Dieu m'a renouvelé, mais vous savez, en tant qu'homme, je n'ai pas dit à ma femme, hein. J'y allais. Mais elle a vu que j'étais rayonnante. Elle est rayonnante du moins. Du coup, elle a vu s'apercevoir que j'ai fait une expérience. Bon, poliment, je dis, t'avais raison quand même, t'avais raison. Il faut que les hommes apprennent à dire à leurs femmes qu'elles ont tout le temps raison. Dis à ta femme, tu as raison. Antoine, dis-lui. Elles ont raison, vous savez, elles ont raison, vous savez. N'essayons pas de jouer, elles ont raison, mais on ne veut pas accepter, elles ont raison. Ok. Alors, vous voyez, frère, alors, la révélation a commencé à venir. J'ai commencé à dire, mais la vie chrétienne, donc ce n'est pas moi. Et un jour, Dieu me dit, va lire dans Galates 2:20. J'ai lu Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ah, je serai crucifié. J'ai été déjà crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, mais ce Paul-là, il est un peu bizarre. Il a un langage qui n'est pas un langage orthodoxe. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, je fais des efforts. Lui me dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ dans Colossiens 3. Et par exemple, il dit verset 1, il dit, mais Colossiens 3, verset 1, il dit, Christ est ma vie. Alors, toutes ces expressions commençaient à me choquer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi il parle? Et le Saint-Esprit, tout doucement, a commencé à me donner la révélation de la vie chrétienne. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais j'étais à côté de la plaque. J'étais à côté de ce que tu veux que je voie. Alors, un jour, je disais encore, on va retourner à 1 Jean 5, comme je l'ai lu tout à l'heure, verset 19. Nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, quand j'ai commencé à dire que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, Dieu me dit, vous êtes de Dieu? Il dit oui. Il dit, va lire au verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Verset 13 maintenant. Afin que vous sachiez, vous voyez bien, tout le temps, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, que vous sachiez, que vous sortiez de l'incertitude, que vous sortiez des choses de la confusion, que vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire, le genre de vie que Dieu a. Il me dit, si tu ne crois pas, va lire dans 2 Pierre 1, verset 4. Où Dieu dit, et Paul Pierre dit, qu'il nous a rendus participants de la nature divine. Il dit, si tu ne crois pas, va lire dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui, donc, Dieu leur a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alors, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mes yeux sur la vie chrétienne. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible que cette victoire-là que j'ai lue dans la Bible, pourquoi je ne la voyais pas? Mais Dieu dit, mais oui, parce que tu entres dans la parole de Dieu avec des lunettes déjà préconçues. Si quelqu'un a des verres fumés, quand il regarde, tout est obscur autour de lui. Il dit, mais enlève ça et assois-toi et laisse le Saint-Esprit qui est en toi t'enseigner la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, dis, oh cher Saint-Esprit, enseigne-moi comme tu as enseigné ceux qui ont écrit la Bible, car c'est sous l'inspiration des hommes, du Saint-Esprit du moins, que les hommes ont écrit la Bible. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui a permis aux hommes d'écrire la Bible, il y a que le Saint-Esprit qui peut aussi nous aider à comprendre la Bible. Mais si ce sont des hommes qui sont assis eux-mêmes, ils ont écrit comme cela naturellement, alors en ce moment-là, la Bible n'est plus un livre inspiré. En ce moment, j'ai besoin de mon cerveau pour le lire. Je dis, mais c'est pourquoi je dis, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alors j'ai commencé à voir que, mais en réalité, j'ai la vie éternelle. Il me dit, parle dans 1 Jean 4:4. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu encore, vous voyez bien? Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Qui? Parce que celui qui est en vous, ah! Il me dit, mais quand Dieu, le Saint-Esprit a dit à Esaïe, décrit Esaïe 9. Esaïe 7 d'abord, Esaïe, et puis Esaïe 9. Et Esaïe 7 dit que la Vierge enfantera. Le nom de l'enfant sera Emmanuel. Il dit, mais ce nom de l'enfant Emmanuel, ça a été vécu pendant quand Jésus est venu sur la terre. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il n'a pas seulement ce nom. Il dit, il s'appelle Christ. Christ est qui? Maintenant, c'est Dieu où? En nous. Emmanuel n'est pas ses prénoms. Christ n'est pas son prénom. Ce sont ses différentes fonctions. Paul dit Colossiens 1, 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Emmanuel, c'est celui qui marchait avec les pierres et que Isaïe a prophétisé. Il a marché avec eux, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand il est rempli du Saint-Esprit, dans c'est acte 2, quand il prêche, il arrive à demander, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est la dimension de Christ ressuscité et glorifié. De Jésus. C'est pourquoi Paul, il ne parle pas de Jésus. Paul parle toutes ses études de Christ. Pourquoi? Il ne parle pas de son prénom. Il parle de la dimension spirituelle de l'Esprit Saint par Christ qui habite en nous maintenant. Voilà les secrets de la vie chrétienne victorieuse qui commençait à se révéler à moi tout doucement. Et c'est pourquoi ici il dit, et Jean nous dit la même chose, Jean nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Étant de Dieu, vous les avez vaincus. Qui? Ceux qui sont les antichrists et tous ceux qui s'opposent à vous. Mais par quel moyen? Car c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous, pas avec vous, qui est en vous, est plus grand que celui qui est au. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Il me dit, mais va lire dans 1 Corinthiens 6, 17. Il dit, si quelqu'un s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Et le verset 19 dit, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne détruisez pas ce temple-là, car vous êtes le temple de Dieu. J'ai commencé à voir la vie chrétienne intérieure. J'ai même vécu la vie chrétienne extérieure par les activités, partout. Maintenant, j'ai commencé à voir que la vie chrétienne extérieure ne peut être victorieuse que si d'abord mon homme intérieur grandit en Christ. C'était le secret qui me manquait. Je voulais opérer par mes efforts. Je voulais travailler par mes efforts. Mais mon homme intérieur était un nain. Et ce nain-là n'avait pas de force. Ce nain était incapable. Parce que je ne le nourrissais pas. Je nourrissais mes muscles par 3 bons repas. Mais j'affamais mon homme intérieur par tout juste un repas une fois par semaine. Votre homme intérieur a besoin, c'est ce que Jésus a dit. Quand il a répondu à Satan, dans Matthieu 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain seulement, ça veut dire les muscles. Mais il vivrait de toute parole. Il parle de quoi? Il parle de notre homme intérieur. L'homme a deux éléments, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et si les deux ne sont pas en harmonie, alors tu peux être un chrétien dans l'église, faisant beaucoup d'activités. Mais dès que Satan attaque, tu es faible, comme Samson. Tu es faible. Tu ne peux pas résister. Ah, ton homme intérieur est un bébé. Il n'a pas grandi. Lisons 1 Jean 2. Vous allez voir les 3 étapes de la croissance. Ce soir, nous voulons débroussailler. Ce soir, nous sommes en train de débroussailler pour que nous puissions nous préparer pour demain. 1 Jean 2. 1 Jean 2, à partir du verset 12. 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Voyez là, il nous donne les 3 dimensions de la vie chrétienne. Il dit les petits-enfants, après les jeunes gens et les pères. Dans la vie naturelle, c'est la même chose. Nous tous, nous sommes devenus petits-enfants, nous sommes devenus des jeunes gens, et ensuite nous sommes devenus des pères. Alors, cette analogie entre le naturel et le spirituel, est une analogie importante et qu'il ne faut pas négliger. Alors, cette analogie spirituelle ici dit, je vous écris petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, si je veux grandir dans la vie chrétienne, si je suis né de nouveau, je suis devenu un chrétien converti à Christ, la première chose que Dieu veut que je sache, la certitude que Dieu veut que je sache, c'est que mes péchés sont pardonnés.
Tout petit enfant spirituel, tout petit enfant chrétien qui n'est pas convaincu de ça sera fatigué par Satan en permanence. Si vous ne savez pas que vos péchés sont pardonnés, chaque fois que vous allez prier, dès que vous vous mettez à genoux pour prier, au moment où vous mettez à genoux pour prier, Satan viendra et ton péché d'hier. Tu vas le confesser. Quand tu as fini, et le péché d'il y a 10 ans, tu vas le confesser. Quand tu as fini, mais et tes pensées impures, tu confesses. Quand tu as fini, et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas la prière. Pendant la prière, Satan les harcèle et les vainque en permanence. Ils n'ont aucune assurance en eux. Pour grandir, il faut d'abord que le petit enfant ait l'assurance que ses péchés sont pardonnés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Pas qui pardonne seulement, qui ôte. Le premier élément important pour chacun d'entre nous. Il y a une dame qui faisait des émissions à la radio pendant 20 ans, une chrétienne, qui interviewait des grands hommes de Dieu, des pasteurs, des prêtres. Elle interviewait tout le monde. Tout le monde l'élevait, tout le monde était content d'elle. On dit, c'est une chrétienne victorieuse. Du coup, au jour, on a réussi ces choses-là simplement. Elle est venue s'asseoir et dit, mais tout le monde pense que j'ai la victoire, j'ai pas la victoire. Je suis une chrétienne très dans la dépression. Il dit, ah bon, oui. Pourquoi? Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Combien de multitudes de chrétiens sont dans nos églises sans assurance de salut? Ils n'ont aucune assurance de salut. Comment il va grandir, ce chrétien-là? Comment peut-il grandir, se tenir devant Satan, se tenir devant les circonstances, se tenir devant les épreuves et dans la victoire? Il ne peut pas. Puisqu'il est culpabilisé en permanence. Il est complexé. Il n'a même pas compris la justification. La justification, il n'a pas compris cette doctrine de la justification qui est un don simple. Il n'a pas compris ça. Mais cette dame-là, 30 ans, c'est en ce moment qu'elle a reçu Christ. Elle a eu l'assurance que ses péchés sont pardonnés. Satan la tourmentait tout le temps en disant, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Tu as commis de tels grands péchés. Elle était tourmentée. Pourtant, quand elle interviewe les gens à la radio, les gens pleurent et tout, mais elle-même, elle était tourmentée. Elle n'avait aucune assurance de son salut. Donc, premier élément, les petits-enfants doivent la certitude, c'est que nos péchés sont pardonnés à cause de Christ. Deuxième élément, dit jeunes gens, verset 13. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, ensuite, au verset 14, la fin du verset 14 dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, premièrement, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Alors, un chrétien qui sait que ses péchés sont pardonnés, que Christ a pardonné ses péchés, qu'il est justifié, il a la paix avec Dieu, Romains 5, verset 1. C'est ce qui manque à beaucoup de gens, ils n'ont pas la paix. Il y a deux éléments de la paix. Il y a la paix avec Dieu et il y a la paix de Dieu. C'est deux choses différentes. La paix avec Dieu vient par la croix, la réconciliation. Christ a donné sa vie et il a réconcilié le monde avec Dieu. Il a réconcilié donc les juifs et les païens ensemble. Ça, c'est la paix avec Dieu. Mais la paix de Dieu vient de ce repos lorsque vous avez compris ce que Dieu a fait, la justification. Alors, vous sortez du complexe d'infériorité, de la culpabilité, vous avez l'assurance, vous savez avec certitude qui vous êtes, vous connaissez votre identité. Frère, ce que je vous dis, depuis ces 10 années dernières, j'ai commencé à enseigner ça à travers le monde et j'ai vu des gens totalement transformés. Les gens me regardaient au début, est-ce qu'ils ne croyaient pas? Est-ce que c'est possible? Il dit, mais ce n'est pas toujours une possibilité, c'est un fait. Un fait, ce n'est pas une promesse, là. Une promesse, je fais tout pour m'en accaparer. Mais un fait, je l'accepte. Et si je ne l'accepte pas, ça ne change pas les faits. Ça ne change pas les faits. Ça ne change pas. Alors, quand nous commençons à grandir, à croître dans la vie chrétienne, nous passons des petits enfants à jeunes gens. Et les jeunes gens ont trois éléments en eux. Premièrement, ils sont forts. Pourquoi sont-ils forts? Ils sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et ils ont la révélation qu'ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin. Ils n'ont pas besoin tout le temps de parler du diable à tout bout de champ. Ils n'ont pas besoin de dire le diable est tout le temps derrière moi. Jamais, ils ne sont jamais derrière le diable, tout le temps il est derrière eux. N'importe quel chat noir de leur maison, c'est le diable déjà. J'écoutais un de nos jeunes hier, avant de prendre l'avion, j'étais à l'église, j'écoutais un de nos jeunes qui donnait son témoignage. Il n'avait aucune certitude. Mais il aimait crier, il partait tout le temps, il chassait les démons, il chasse les démons à l'église, il chasse les démons chez les gens. Et un jour, Dieu va le corriger. Il arrive chez lui à la maison, après avoir chassé tous les démons, il arrive chez lui. Il rentre dans sa chambre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un marouilla couché sur son lit. Un marouilla, c'est un lézard. Un lézard doré couché sur son lit. Dans sa tête déjà, il croit que c'est quoi? Le diable. Mais en Afrique, il y a tellement de lézards. Il y a des lézards qui rentrent partout. Si tous ces lézards étaient des démons, c'est grave. Ils vont nous manger. Il voit un lézard sur le lit. Et il commence à s'arrêter. Au nom de Jésus, sors d'ici. Au nom de le lézard est couché. Il a tellement crié, il était fatigué. Il était fatigué, il est parti s'asseoir au salon. Quand il est parti s'asseoir au salon, le Saint-Esprit lui dit, il dit, tu n'as pas besoin d'utiliser le nom de Jésus contre un lézard. Un simple bâton aurait tué le lézard. Sois intelligent. Lève-toi, va tuer. Faut pas rabaisser Jésus à ce niveau-là. Que les oiseaux, les choses, ce grand nom, vous n'allez pas l'utiliser quand même pour des choses inutiles. Pas l'utiliser pour n'importe quoi. Ce grand nom, ce nom de Jésus, tout genou ploie dans les cieux, sur la terre, vous l'utilisez contre les oiseaux et les marouillas. Il faut respecter son nom là. Pas l'utiliser dans n'importe quelle sauce. Dès qu'on dit Jésus au ciel, si vous avez vu le ciel, dès qu'on dit Jésus, les archanges, les séraphins sont à genoux. Partout, n'importe quel endroit dans le ciel, ils sont à genoux. Toute la création est à genoux. Alors, si ce nom-là n'est pas exalté à ce nom-là, si vous le méprisez à tout le temps, mais vous allez avoir des problèmes. C'est le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Le nom Jésus, quand il est prononcé, c'est pourquoi on ne doit pas le prononcer à tout vent. On ne doit pas mettre dans toutes les sortes au nom de Jésus. On ne doit pas terminer toutes nos prières au nom de Jésus. Quand on le vulgarise, le jour qu'on a besoin de ce nom-là, il n'a plus de sens pour nous. Il n'a plus de sens. Il n'a plus d'importance. Parce qu'on l'a trop, utilisé à tout. On n'y croit plus. Ouais, frère. Il dit père. Les pères, c'est quoi? Ce sont des gens qui se reproduisent et se multiplient. Les pères ne font plus de combat. Ce sont des officiers qui donnent des ordres, qui forment l'équipe pour aller. On le verra sûrement demain dans la troisième chose, comment être des soldats de Christ. Ce soir, c'est une introduction pour nous situer un peu dans Alors, nous sommes de Dieu, mais regardons rapidement parce qu'on va... On ne va pas vous retenir longtemps ce soir. Et retournons à 1 Jean 5, verset 19 encore. Nous savons, toujours. Nous savons, pas nous le saurons, pas peut-être, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais deuxième, c'est pas fini. Savoir que nous sommes de Dieu, c'est bien. Deuxième partie, il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Voici où le chrétien doit se situer. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Puisque la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Marie, de quoi il s'agit? Quels que soient les progrès, les changements, les régimes, le monde est ce qu'il est. Quand on parle de monde, on ne parle pas du cosmos, c'est simple. On parle du système de ce monde-là. Parce que la Bible dit que la terre est au Seigneur, la création est à Dieu. On parle du système que Satan a tissé dans ce monde-là, c'est de ça qu'il parle. Le système sociologique, politico, tout ce qu'il est. Parce que le problème, c'est que les gens, tout le temps, voient dans le diable un animal avec une queue tordue. Et le diable est civilisé, il est intelligent, il est civilisé. Quand le diable se présente en Afrique, il se présente comme un monstre avec trois têtes en Inde, et il se mord. Mais quand il vient en Europe, il prend une cravate. C'est ça qui nous crée des problèmes. Quand le diable chez vous, il porte une cravate, et vous, quand vous le voyez, vous ne savez pas, vous le savez, vous connaissez le voisin. Bonjour voisin. C'est le diable qui est là devant vous, ce n'est pas votre voisin. Hein. C'est ça qui vous trompe. Le diable est rusé, il sait bien que si je présente comme en Afrique, vous n'allez pas l'accepter. Il est parfois sur la chair de philosophie. Il est professeur titulaire de chair. C'est le diable qui est là en personne, qui est en train d'influencer, de mettre des choses comme il veut. Et le système du monde et les frères, c'est un système dangereux. Il faut le regarder très bien et il faut savoir quand est-ce. J'ai noté quelques éléments pour nous aider. Il est dit, Luc 4, Jésus n'a jamais contesté le diable. Jésus n'est pas pour contester le diable. Le diable a dit une vérité entre guillemets à Jésus. Jésus ne lui a pas répondu dans Luc 4. Quand il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus n'a même pas dit un mot. Jésus savait que de façon légitime, ce que Satan disait était juste. Et pour retirer ça entre les mains de Satan, il fallait la croix. C'est le seul moyen. Il savait que le système du monde a été, le système du gouvernement du monde a été réuni par Adam. C'est pourquoi ce n'est pas elle qui a péché, c'est Adam qui a péché. Je ne comprends pas le péché. Les gens confondent les œuvres du péché avec le péché. Qui a posé l'acte? C'est Ève. Mais on dit qu'Ève n'a pas péché. Ève a été seulement séduite. Mais Adam a péché. Alors qu'est-ce que le péché? Si on ne comprend pas ça, déjà on a des problèmes. Ce n'est pas l'adultère, c'est les œuvres, la chair. C'est pas le péché singulier, ce n'est pas ça. Adam n'a pas menti, Adam n'a pas commis adultère, Adam n'a pas volé. Mais pourtant, on dit c'est lui qui a péché. Le péché est dans ce monde par lui. Alors, si on ne comprend pas ce concept du péché et les péchés, on a des problèmes. Les gens veulent découper les péchés. L'arbre le plus meurtrier, si vous découpez ses branches et ses fruits, vous n'avez rien fait. Parce que l'année prochaine, il va faire quoi? Il va repousser. Il faut le déraciner. Le péché, c'est un arbre. Les péchés, ce sont ses manifestations, ses branches et ses fruits. Ah, demain, on le verra. Les trois éléments qui s'opposent aux chrétiens. Le premier élément, c'est là, le vieil homme. Lui, il a été crucifié. Dieu a résolu le problème du vieil homme. Dieu l'a crucifié avec Christ. Alors, la croix du calvaire a deux éléments, deux faces. La première face de la croix, c'est cette face où Jésus a ouvert les bras. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous pardonne, je vous réconcilie avec le Père. Ça, c'est le premier élément, ça, c'est le pardon. Mais beaucoup de chrétiens restent là. Mais il y a le dos de la croix. Les autres, la croix. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, c'est la crucifixion du vieil homme, de mon vieil homme. Ici, c'est le pardon de mes péchés. Et c'est pourquoi, quand je suis pardonné dans mes péchés, 3 mois, 6 mois après ma vie chrétienne, je reconnais les mêmes péchés encore. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pourquoi Paul a crié dans Romains 7. Romains 6, le vieil homme a été crucifié. Mais son intelligence n'a pas été renouvelé. Il ne comprenait pas. Le vieil homme a été crucifié. Le jour que Dieu a fait crucifier Christ, le même jour, notre vieil homme a été crucifié avec Christ.
Ça, c'est un acte divin, ce n'est pas un acte humain. Personne ne peut se crucifier comme personne ne peut se faire baptiser. Se baptise lui-même. Personne ne se fait enterrer. Ça, ce sont des actes que quelqu'un d'autre pose. Ce vieil homme qui a été crucifié, mais maintenant, quand j'ai compris cela, quelqu'un se présente devant moi, qu'on appelle la chair. Alors, du coup, la chair, on va le voir demain, c'est l'ensemble des cinq sens et tout qui s'oppose à moi parce que je ne suis pas renouvelé là. Je suis un chrétien, j'ai compris, le vieil homme est crucifié, mais pourtant, j'ai des problèmes. Quand j'ai compris publiquement, un troisième élément qu'on appelle la loi. La loi vient devant moi. C'est pourquoi Paul nous dit, il ne comprend pas. La loi est bonne, la loi est spirituelle, mais pourquoi moi j'ai des problèmes? Il dit, je trouve dans mes membres une autre loi qui agit. La loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est différente de la loi de Moïse. Mais une autre troisième loi, la loi de l'esprit de vie. Si on ne comprend pas le mécanisme, la loi du péché de la mort, la loi de Moïse qui pousse la loi du péché de la mort à jaillir dans ma vie, on ne peut pas comprendre la loi de l'esprit de vie, dans Romains 8, verset 1 maintenant, la loi de l'esprit de vie qui est venue m'affranchir de la loi du péché de la mort. Chose impossible à la loi, car la chair rendait incapable. Le monde. Il dit, le monde est sous la puissance du malin. C'est pourquoi Satan a dit à Jésus, non, c'est la maladie donnée. Jésus ne pouvait même pas lui répondre. Jésus ne pouvait pas légitimement lui répondre. Il dit, c'est la maladie donnée, je donne à qui je veux. Vous entendez cette expression? Je donne à qui je veux. C'est pourquoi il a distribué ça dans le monde entier. Ouais, le système du monde, il a distribué à qui il veut. Satan est en avance sur l'homme de 6000 ans. 6000 ans, il a tissé tout un réseau. Tout un réseau rapide, plus rapide que vos cellulaires. Plus rapide que vos téléphones mobiles. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, mais son système le rend comme cela à peu près. Son système qu'il a tissé. S'il est en Inde, en un clin d'œil, il est au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Par son système, son network, comme il a tracé ça, c'est ça qu'on parle du monde. Et Satan, il n'est pas bête. Tout ce qu'on met sur son dos, sur la violence, c'est pas lui, ça c'est la chair des hommes. Si vous connaissez le système du monde, si on vous dit ça, vous serez scandalisé. Parce que vous n'allez pas, si on vous dit le système du monde, vous allez vous rendre compte que les meilleures choses, les bonnes choses, souvent, c'est ça le système du monde qui nous crée les problèmes. Alors, Satan n'est pas insensé. Il va nous faire croire que tout ce qui est violence, meurtre, c'est Satan, ça vient de lui. En ce moment, il travaille les gens par les bonnes choses. Les bonnes choses sont celles qui paralysent les chrétiens, justement. Les bonnes choses. Parce que il nous a donné ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi, dans tout bien que l'homme produit, il y a toujours du mal. Dans tout produit pharmaceutique que l'homme produit, il y a toujours les effets secondaires qui détruisent plus que ça. Dans toute invention que l'homme fait, il y a toujours du... Regardez bien, prenez tout, tout ce que l'homme fait, c'est bien. Regardez là-dedans, il y a toujours du mal là-dedans. Parce que cette arme-là, la lame, la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui nous trompe. Pourtant, Dieu l'a déjà dit. Tout ce que nous inventons, Dieu dit, mais c'est corrompu par le mal. C'est déjà corrompu par le mal. C'est corrompu par le mal. C'est pourquoi Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été dit, a été fait, a été déjà dit et fait par les autres générations. Par la Bible, c'est le livre le plus extraordinaire. Que les gens, quand ils lisent, ils cherchent des choses, mais c'est le livre le plus extraordinaire et le plus mystérieux. Pas mystique, hein, mystérieux. Les secrets qui sont là-dedans. Alors, bien aimé frère, vous voyez, ça c'est très important quand nous ne comprenons pas ces vérités-là. Alors, ça nous crée des difficultés. Dans Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, Jésus répète la même chose. Ce soir, c'est une introduction, je voudrais, je brasse rapidement, 14, verset 30, Jésus nous dit ceci. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Alors, Jésus dit, Jean dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Jésus dit, Jean a raison, car Jésus l'a appelé le prince de ce monde-là, du système de ce monde. Il vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a absolument rien en moi. Il n'a pas de point d'attache en moi. Il ne peut pas m'influencer. Ni dans mon mental, ni dans mon psychique, ni dans mon intelligence. Il n'a rien en moi. Ni dans mon cœur, il n'a rien, ni dans mon corps. Jésus dit, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et Éphésiens 2, Éphésiens Paul, Paul nous parle aussi de ce monde-là. Regardons-le. Quand Paul nous parle de ce monde, Éphésiens 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez bien, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde, hein, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Vous voyez les trois éléments? Il a le train de ce monde-là. Comment? Par le prince de la puissance de l'air. Il a saturé tout l'air par un élément spirituel empoisonnant. C'est pourquoi, écoutez mon frère, les continents, il les a déjà pris en otage. Dans la ville de Paris, il y a des quartiers où c'est les prostituées, l'autre quartier, c'est les gangs, l'autre quartier, c'est telle chose. Regardez, il a pris le prince, la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Mais quand on regarde tout cela, on va penser que c'est négatif. Non. Si tu comprends ça, si tu as des certitudes de ça, que le monde entier est sous la puissance, et tu sais cela, et tu sais qui tu es, et plus tard, tu sais comment tu es un combattant. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand tu as ces certitudes-là, alors on termine simplement en disant dans 1 Jean, on retourne dans 1 Jean, on va terminer par là. Le verset. Si tu as ces certitudes-là, tu n'es plus tranquille, tu n'es plus agité. 1 Jean, verset 4, il dit simplement, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ça afin que notre joie soit parfaite. Ces choses n'ont pas été dites pour nous faire peur. Au contraire, ces choses me montrent qui je suis, mon identité. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Les choses qui sont là, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la famine, ni la nudité. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Il m'a donné toutes les armures. On va le voir demain, toute l'armure de Dieu. Il dit, soyez forts par la puissance de Dieu et par toute l'armure de Dieu que Dieu vous a donnée. Que Dieu nous a déjà donné. Pas qu'il va nous donner. Dieu nous a donné toutes ces armes-là. Dieu me dit seulement, combat le bon combat de la foi. Voilà la seule chose que tu dois faire. Combat le bon combat de la foi. Simplement. Le bon combat de la foi. Il dit, j'ai combattu ce combat, j'ai achevé l'œuvre et la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimés frères et sœurs, c'était l'introduction ce soir. Les certitudes. Ces certitudes m'ont fait passer des ténèbres à la lumière brusquement. Ces certitudes m'ont donné une assurance, frère. Une assurance aujourd'hui. Assurance, une certitude profonde dans mon cœur que je suis de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Que je suis plus que mon cœur. Ces certitudes m'ont fait savoir que mon vieil homme n'a plus de pouvoir sur moi. Parce qu'il a été crucifié, enterré, enseveli. Et je suis ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. et que je suis en Christ, je suis la justice de Dieu. Donc, je n'ai plus besoin d'être complexé, d'avoir toutes ces culpabilités. Non. Et je marche avec assurance, donc, selon la grâce de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Là où je marche avec la présence de Dieu en moi, frère, en moi. C'est ce que Dieu dit. Nous marchons avec la présence de Dieu en nous, ce que Dieu nous a fait. Simplement. Simplement. Si j'avais deux bouteilles ici, une bouteille de sirop, une bouteille d'eau, les deux bouteilles ne sont pas pareilles. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est du sirop concentré. J'ai beau mettre les deux bouteilles côte à côte, j'ai beau les frotter l'une à l'autre, l'autre restera sirop, l'un restera sirop, l'autre restera de l'eau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je débouche les deux bouteilles, j'enlève les capsules, je prends le sirop et je mets dans l'eau. Quand j'ai fini de mettre l'eau dans le sirop, j'ai quoi maintenant dans ma main? Les deux bouteilles sont quoi? Comment on les appelle? Non, sirop. Oui ou non? Les deux sont devenus, les deux sont quoi? Les sirop. L'autre est concentré simplement, l'autre est l'original, l'autre est déversé. Ça, la vie chrétienne. Jésus-Christ, c'est le sirop concentré. Votre vie, c'est de l'eau, hein, sans goût, sans odeur, rien. Mais quand il se déverse en vous, la couleur change. Si vous avez du sirop menthe, le rouge, l'eau devient quoi? Rouge, et son goût, c'est quoi? La menthe. Hein? C'est ça. Si c'est vert, si c'est vert, la grenadine qui est rouge, la menthe, ok. Non, non, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça qui est important. Quand vous mettez la dent, dès que vous buvez, on ne va pas dire je bois de l'eau sirop. Je bois quoi? Sirop. On dit sirop de quoi? Sirop de menthe. Mais pourtant, le monsieur va dire ah non, c'est pas vrai, c'est de l'eau. Non, ce n'est plus de l'eau. Dès le moment où le sirop est rentré dans l'eau, ce n'est plus de l'eau, c'est du sirop maintenant. Dès le moment où Christ est rentré en nous, tu es de la famille de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est des choses qu'il faut accepter simplement. Vous voulez lutter, vous allez lutter pour faire quoi? En Afrique, on taille un morceau de bois en forme de caïman, on le met dans l'eau. Il deviendra caïman? Il deviendra un crocodile? Jamais. Plus il est dans l'eau, plus le bois fait quoi? Il pourrit. Frère, faites attention à ça. Plus vous êtes des chrétiens, morceaux de bois, et vous voulez vous transformer en caïman, jamais. Le christianisme, on est né de nouveau. On est né comme Marie a mis au monde Jésus. Comprenez? C'est la semence qui est sortie du sein de Marie. Quand on est de nouveau, le Saint-Esprit nous met au monde. On est conçu par le Saint-Esprit. On est né par le Saint-Esprit. Comprenez? On devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on n'est pas changé. La vie chrétienne n'est pas un changement. Non! Et une croissance et une transformation qu'on appelle métamorphose. Métamorphose. Le morphose, c'est la forme. Méta, c'est la transformation. Et une transformation qui fait que ce petit enfant qui est né là, ce petit enfant, il a tout déjà en lui. Il est métamorphosé. Simplement. C'est pourquoi la semence masculine qui est déposée dans la femme, dans cette semence-là, il y a tout déjà. Il y a les dents, il y a la barbe. Est-ce qu'une maman a déjà acheté une barbe au marché? Quand un enfant est né, il a déjà enlevé la barbe. Mais attendez, au temps convenable, la barbe sortira. Au temps convenable, les dents sortent. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on est né de Dieu, on continue à manger normalement la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, les muscles sortent, les dents spirituelles sortent, les yeux spirituels sortent. Tout sort en nous. Et je suis là aujourd'hui. Mais quand je suis né, j'avais 2 kilos. Aujourd'hui, j'ai 1,95 kg. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ma mère m'a tiré pour devenir grand? Est-ce que ma mère m'a attrapé par la tête et puis dit, tu vas devenir grand? Maintenant, je suis... Non, pas d'effort. Ma mère n'a pas fait un effort pour que je devienne grand. Non. Ma mère n'a pas prié. Il dit, Seigneur, oh Dieu, rends Mamadou grand, rends Mamadou grand. Non, nourris-moi, maman, nourris-moi, nourris-moi. Donne-moi à manger, à boire. C'est fini, je vais grandir. Nourris-toi des révélations de la parole. Et tu vas grandir. Nourris-toi, mange. Spirituellement, mange. Comme il m'a pas dit à son enfant, mange petit, mange. Il y a des vitamines, minéraux, il y a des vitamines et des minéraux spirituels dans la parole de Dieu. Amen. Si vous mangez, quand j'ai compris ça, je suis à l'aise. Comme les jeunes disent, je coule, simple. Il y a des difficultés, hein? Il y a des épreuves. Mais oui. Il y a des difficultés. Il y a un an et demi, ma femme est décédée, mais ça ne m'a pas changé. J'étais dans l'assurance, calme. On l'a enterré mercredi, j'ai prêché dimanche à l'église. Et que mais comment? Non, je suis venu en Suisse 10 jours après. J'étais en Suisse en train de prêcher. Pourquoi? Ma fille est décédée 10 jours, ressuscitée entre les morts aux États-Unis. Dieu m'a dit de partir. Par 10 jours après, je suis parti. À l'hôpital, si vous voulez, le livre est en train d'être écrit, les journaux en ont parlé. Tu as trouvé ma fille comme ça, là. 10 jours, j'étais autour de son corps. Les militaires, les médecins américains ont dit, tu es fou. Et, mais Dieu m'a dit que ma fille va ressusciter. Elle est ressuscitée. Pourquoi? J'avais l'assurance. Je ne me suis pas exposé au ridicule. Non. Parce que je sais que Dieu est qui est en moi, m'a parlé. Frère, ce n'est pas exceptionnel. C'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas exceptionnel. Femme comme homme. La vie divine vient à nous. C'est la vie de Dieu. Jésus qui l'enveloppe. C'est pourquoi Jésus dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Le Père est en moi. Je lui dis, mais tu mens. Le Père n'est pas en toi. Il dit, mais non, le Père et moi, nous sommes un. Il est qu'en moi. La Bible vous dit ça, frères et sœurs. Et quand le Père est en vous, il vient pour vous faire grandir. Il vous donne la paix, la victoire, la joie. Vous n'avez pas à vous arracher la tête, comment grandir. La croissance naturelle nourrit l'enfant. Avec la bonne nourriture, il grandit. La croissance spirituelle nourrit-toi de la parole de Dieu. Et obéis à Dieu, tu grandis. Et tu as franchi des choses. La grandition vient, tu as franchi. Et toutes ces choses-là viennent, tu as franchi. On va prier pour terminer ce soir. Seigneur Dieu, nous sommes venus parce que nous sommes à l'orée d'un changement qualitatif, d'un tournant important dans nos vies, dans nos nations. Mais nous ne pouvons pas aller loin, Seigneur, si les certitudes ne se reposent pas en nous. Si ces certitudes ne font pas un avec nous, un corps avec nous, Seigneur, nous ne pouvons pas progresser. Merci pour ces excellents hommes et ces excellentes femmes qui sont là ce soir. Ce sont tes enfants, c'est ton peuple. Des hommes et des femmes qui sont venus ici parce que, non pas parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont venus parce qu'ils aiment le corps de Christ, ils t'aiment Seigneur. Ils sont venus parce qu'ils veulent progresser, ils veulent impacter leur génération. Ils sont venus parce qu'ils veulent Seigneur être des hommes et des femmes que tu peux utiliser pour impacter leur génération. C'est pourquoi Seigneur, je suis venu aussi, comme ce sont mes frères et mes sœurs, pour qu'ensemble nous puissions partager, nous puissions voir ensemble comment... Toi, tu veux nous enseigner pendant ces 3 jours-là. Père, sois béni et sois loué pour cette première soirée. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois béni pour toutes tes grâces que tu nous fais, Seigneur. Sois exalté et sois magnifié. Père, merci ce soir-là. Oui, nous sommes restons la tête baissée. Vous êtes venus dans cet endroit ce soir. Vous commencez à avoir une difficulté dans le dos et votre médecin dit que c'est comme si c'était une angine de poitrine. Je vois cela sur votre dos actuellement. Comme une angine de poitrine qui a failli se manifester et cela vous a créé la peur. Ce soir-là, posez votre main sur votre poitrine. Si vous croyez maintenant, je vais prier avec vous. Posez votre main sur votre poitrine. Père, je réprime maintenant cette peur qui saisit notre bien-aimé. Et je commande que dans le nom de Christ Jésus, que Seigneur, cela parte. Que cela ne se traduise pas en angine de poitrine fatale. Au nom de Christ Jésus, esprit de mort, je te réprime ce soir. Je commande que tu lâches prise dans le nom de Christ Jésus.
Vous êtes une femme d'une cinquantaine d'années et vous avez comme des bouffées de chaleur dans votre corps. Quand vous réveillez toute la journée, cette bouffée de chaleur. Pourtant, quand vous prenez votre température n'a pas baissé, elle n'a pas augmenté. Mais c'est là une bouffée de chaleur en vous en permanence. Maintenant, je répugne dans le nom de Christ Jésus cette bouffée-là qui a une origine hormonale et qui crée ces problèmes dans votre corps. Je répugne cela et je commande ce soir que ces effets cessent maintenant et que demain matin vous réveillez en parfaite santé. Vous êtes une dame aussi, vous avez un problème au niveau des deux genoux. Quand vous levez le matin, vous asseyez d'abord au bord du lit pour descendre les pieds, les jambes. Parce que pour vous lever, c'est difficile. Et cela crée comme une lourdeur de jambes. Mettez vos deux mains sur vos genoux maintenant. Je commande dans le nom de Christ Jésus ce soir-là. Je répète ces douleurs au niveau de ces genoux. Je commande dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, je commande à ces douleurs. Vous cessez. Et je commande à la lourdeur des jambes. Je commande à tout ce qui a été touché par la maladie, par que ces genoux fonctionnent maintenant au nom de Christ Jésus. On a découvert des glaucomes à vos yeux. Et la pression dans vos yeux est forte. Maintenant, mettez votre main sur vos yeux. Mettez votre main sur vos yeux maintenant. Je commande à ce glaucome-là. Je réprime ce glaucome maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je commande que cette pression au niveau des yeux cesse. Je commande que ces yeux fonctionnent maintenant. Au nom de Christ Jésus, Père de grâce et d'amour, touche ces personnes ce soir, Seigneur, pour ce battement et ce problème de cœur qui parfois s'emballe d'un seul coup. Seigneur, touche ce cœur maintenant, que ce cœur-là fonctionne parfaitement. Et recevez cette grâce du Seigneur ce soir. Et que la grâce et l'amour de Dieu vous touchent ce soir de façon parfaite. Merci ce soir, parce que tu touches les corps des uns des autres. Et tu agis parfaitement dans ce corps-là. Ok, Seigneur, les gens reçoivent l'attouchement de la présence du Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit touche, que cette articulation, cette douleur dans ce pied-là, je répète cette douleur-là dans le nom de Christ Jésus. Je commande que cette douleur cesse maintenant. Au nom de Christ Jésus, recevez maintenant la présence du Saint-Esprit dans ce pied. Recevez cette grâce de guérison maintenant. Merci Père pour cette grâce-là. Merci pour cet amour. Merci pour cette fidélité ce soir. Père, je te bénis. Je te loue pour ton peuple-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.